Bonjour Guillaume.
Laetitia, vous qui êtes timbrée, vous connaissez bien la poste.
C'était facile, je vous laisse la faire.
Et
bien.
Vous revenez à 11h en recommandé pour une autre page d'information. On va parler de la poste car la poste est un service public qui va mal, qui cherche son avenir avec de nouvelles contraintes, des bouleversements puisque le courrier est de moins en moins utilisé, de moins en moins employé. C'est la raison pour laquelle on s'interroge ce matin sur l'avenir de la poste et des bureaux de poste avec vos questions au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Je ne sais pas si vous aviez remarqué à quel point les violences policières sont confortables. Hier après-midi, comme vous le savez, des migrants ont été évacués de manière musclée par les forces de l'ordre. Et ce matin, tout ce que le pays compte de belle conscience condamne cette opération. Comme si les forces de l'ordre étaient pour nous un corps étranger. Comme si la police, avec l'armée, n'avait pas le monopole de la violence physique légitime. Car cette violence, c'est la nôtre. C'est ce que l'on appelle une violence délégataire. Cette violence, d'où vient-elle? Elle découle de notre conception des hommes en général, de l'immigration en particulier. En France, il y a trop de femmes et d'hommes. Les individus ne sont pas un actif, pas une richesse, mais un poids, un passif, quelque chose qu'il faut limiter. Des pays comme les États-Unis peuvent absorber des millions d'immigrés clandestins. Chez nous, une centaine de personnes posent problème. On a dit que les scènes observées hier renvoyaient aux années 40 et l'on avait raison, à condition bien sûr de ne pas parler de 40 sous Pétain, mais d'évoquer 40 avant Jésus-Christ. Car c'est bien une conception antique de l'économie et du marché du travail qui prévaut à ces opérations. L'idée en quelque sorte que le travail disponible en France est un gâteau, qu'il faut en donner à chacun des parts plus petites ou limiter le nombre de convives censés se partager le dessert. Tout le contraire d'une économie moderne où les hommes se fournissent du travail les uns les autres, où ce qui pose problème, ce n'est pas le trop-plein d'hommes, mais la pénurie. Notre pays n'est ni socialiste ni libéral, il est malthusien. Il considère qu'il faut gérer le déclin au lieu d'accompagner la croissance, comme si chaque individu était un individu en trop. Ne nous y trompons pas, ce ne sont pas des migrants qui ont été expulsés hier, c'est chacun d'entre nous que l'on cherche à faire sortir de force du marché du travail. L'opération d'hier a été menée à La Chapelle, mais elle est en cours dans la République tout entière.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et l'on parle dans service public d'un service public de La Poste. On en parle en compagnie d'Alain Barraud. Bonjour. Alain Barraud, vous êtes secrétaire national de la Fédération CFDT Communication Conseil Culture pour La Poste. En face de vous se trouve Pierre Bobby. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Bobby, vous êtes enseignant, chercheur en sciences politiques. Vous êtes spécialiste des services publics en France et en Europe. Et vous avez notamment publié l'européanisation des services publics. Et puis enfin, Séverine Caz. Bonjour. Séverine Caz, vous êtes journaliste au Parisien. Et vous avez publié avec Valérie Acco La face cachée de La Poste, enquête sur un service public en péril, aux éditions Flammarion. Je l'ai dit en introduction, Séverine Caz, La Poste est confrontée notamment à un problème que l'on rencontre chaque jour. Nous envoyons de moins en moins de courriers, les entreprises envoient de moins en moins de courriers. Avec quelles conséquences ?
Avec des conséquences qui sont énormes pour La Poste aujourd'hui et qui ouvrent tout un tas de questions, parce que que sera La Poste dans 10 ans, dans 20 ans ou même dans 30 ans? C'est un peu la question à 1000 points. Donc ce livre, c'est pas du tout un livre d'experts, c'est un livre d'entretien. On a rencontré énormément de personnes à la fois à l'intérieur de La Poste et à l'extérieur. Et ce qui est très flagrant, c'est que tout le monde est capable de faire le constat. Le problème, il est relativement simple, il est connu. C'est-à-dire que depuis 2009-2010, la chute du courrier s'accélère. Ça baisse grosso modo tous les ans de 6 à 7%. Vous l'avez dit parce que les particuliers s'écrivent de moins en moins, mais ça en réalité c'est une toute petite partie du courrier. Avec la crise notamment de 2008, les entreprises et les administrations cherchent à faire des économies et donc elles développent la numérisation du courrier. Lorsque l'État, par exemple, encourage les citoyens à faire la télédéclaration pour les impôts, ce que les gens viennent juste de faire ou vont faire aujourd'hui,
C'est très problématique. Dernier délai.
Absolument, j'en profite pour le rappeler. C'est très problématique pour la Poste parce que vous n'avez plus l'envoi de la déclaration papier. Ça fait des milliers et des millions de courriers en moins. Du coup, la sacoche du facteur se vide. Et ça, c'est la mission historique. C'est le cœur de métier de la Poste. Donc la Poste aujourd'hui doit se réinventer pour trouver des nouvelles missions. Et elle se transforme, c'est une entreprise qui est très ancienne, très vieille, qui s'est toujours transformée, mais là on sent qu'il y a urgence, il y a un peu péril en la demeure.
Alors cette baisse du courrier, elle avait été anticipée, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on a des moyens donc d'y remédier. On s'est dit pendant un moment que cette baisse, elle allait être contrebalancée par l'augmentation du fret, l'augmentation des colis, parce qu'on achète de plus en plus en ligne. Est-ce le cas, Séverine Caz?
Alors, oui, c'est vrai, c'est le cas en partie, puisque la Poste, en fait, la Poste, c'est un petit peu comme une personne, un visage familier, quelqu'un qu'on a l'impression de connaître, d'avoir toujours vu. Et en réalité, il y a plein de choses qu'on ignore sur cette personne. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, la Poste, c'est une très grosse holding avec 200 filiales. Et il y a notamment une très grosse entité à la Poste qui s'appelle Géopost et qui s'occupe du colis express. Donc oui, cette activité-là est rentable. Il n'empêche que le courrier, ça représente encore à peu près la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. Et donc si ce chiffre d'affaires s'écroule, le colis ne suffit pas à compenser la baisse des lettres et des petits envois.
Alain Barraud, vous êtes syndicaliste, CFDT. Est-ce facile de travailler aujourd'hui à la Poste?
Alors non, c'est pas facile, mais les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Alors les défis, ils existent, ils viennent d'être exposés. Une chose que je voudrais dire quand même, c'est les collègues, les postiers, ont déjà connu des évolutions fortes et très fortes et se sont adaptés à différents changements, mais depuis déjà pas mal d'années. Il n'y a aucune entreprise en France qui a su faire évoluer le personnel. Le personnel a suivi, c'est pour ça que les postiers sont assez extraordinaires. On s'en rend peut-être pas compte de l'extérieur, mais l'informatique, par exemple, le commercial, on appelle ça le commercial, les guichetiers ont déjà connu des évolutions très très fortes. Il y a 20 ans, 30 ans, on recevait des clients. Aujourd'hui, on l'a un petit peu évoqué avant l'émission, on est aussi à faire des propositions aux gens qui rentrent dans les bureaux de poste, on a à les attirer, etc. Donc les postiers ont beaucoup beaucoup évolué. Ils auront encore beaucoup à évoluer demain. Aujourd'hui, ce sont les facteurs qui sont en première ligne, puisque le courrier aura diminué de moitié à peu près en 12 ans. Donc imaginez une entreprise dont l'activité principale diminue de moitié, l'impact que ça peut avoir. Donc les facteurs, là, on vient par exemple de les informatiser avec des smartphones, etc., pour, dans l'avenir, proposer de nouveaux services, etc., etc. Donc ils sont aussi en train d'évoluer. Alors, ça ne suffira pas, il va falloir trouver autre chose. Nous, on a des propositions à faire, on les fait depuis déjà pas mal de temps. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise, puisque c'est une entreprise, la Poste, ça a toujours été une entreprise d'ailleurs, hein, paradoxalement, même du temps du statut d'administration, elle était un peu à part comme administration. Et donc, l'objectif pour une organisation syndicale normale, c'est se préoccuper de l'avenir de l'entreprise pour se préoccuper de l'avenir des collègues, des postiers, de l'emploi de demain, d'aujourd'hui et de demain.
On va évoquer justement cet avenir de la Poste en essayant de voir quelles sont les pistes qui peuvent être suivies. On va en parler tout de suite après We Are Match Speaking Machines, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Speaking Martian style, speaking Martians care. They just haul around like the fudges on a crow.
like emotions can. They just haul around like the fudges on a crow.
Service public sur France Inter, il est question de la Poste.
À la Poste, le recommandé, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles. Et comme t'es pas là, il repart avec.
Comment ça, vous le trouvez pas? Mais si ça s'appelle un recommandé, c'est qu'il est recommandé de pas le perdre, non?
Quel avenir pour la Poste? Quel avenir alors que le courrier diminue, alors que l'on utilise de plus en plus la voie électronique pour s'échanger des messages et que le nombre de colis distribués grâce au commerce électronique ne suffit pas à compenser cette baisse? On en parle en compagnie d'Alain Barraud, qui est secrétaire national de la Fédération CFDT, de Séverine Caz, qui publie avec Valérie Acco La face cachée de la Poste aux éditions Flammarion, et enfin Pierre Bobby, enseignant et chercheur en sciences politiques, qui a notamment publié L'européanisation des services publics. Pierre Bobby, la Poste, comme d'autres services publics, est aujourd'hui en proie à la concurrence. On aurait pu privatiser complètement la Poste. La France n'a pas fait ce choix. Néanmoins, il y a aujourd'hui un grand nombre de secteurs qui étaient jadis des monopoles de la Poste, qui sont désormais ouverts à la concurrence. Expliquez-nous lesquels.
Alors, la concurrence, c'est ni un dieu ni un démon. C'est aujourd'hui, dans le cadre de la construction européenne, le fait qu'il y avait dans chaque pays des monopoles nationaux, qu'il faut développer les échanges au niveau européen, et donc ça a amené les autorités européennes à dire, eh bien, il faut ouvrir à la concurrence quelque peu les services postaux. Ça a été la démarche depuis une vingtaine d'années. Mais, avec tout de suite un bémol important, l'Europe garantit un service universel exigeant. Le ramassage et la distribution des lettres et des colis en tout point du territoire européen, au moins 5 jours par semaine. Et ça, c'est la contrepartie de l'ouverture à la concurrence. Ce qui fait que, aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, les entreprises traditionnelles, les monopoles historiques, comme on les appelle, n'ont pas de concurrents intégraux. Ils ont des concurrents sur des parties d'activité, en ville, là où c'est le plus rentable, pour la distribution de colis. Mais il n'y a pas de concurrents qui viennent remplacer ce que fait la Poste, c'est-à-dire un réseau universel desservant tout point du territoire européen. Et c'est ça la richesse de la Poste. Et ça, il faut le maintenir tout en acceptant qu'il y ait un peu de concurrence, parce que la concurrence, c'est aussi un aiguillon pour la qualité et l'efficacité.
Alors, la concurrence n'est effectivement pas nécessairement mauvaise, mais il y a un fait, c'est que de plus en plus d'entreprises aujourd'hui remplissent tout ou partie des fonctions de la Poste, notamment en termes de transport des colis, du courrier, avec des nouveaux entrants, comme on dit, c'est-à-dire que ces protagonistes du commerce électronique, notamment, aimeraient bien grignoter le marché du transport de colis. Séverine Caz.
Oui, ça c'est la grande question. La Poste sera-t-elle la seule à livrer les colis? Alors, elle ne l'est déjà plus. Vous avez beaucoup d'autres acteurs,
UPS par exemple,
FedEx, etc. C'est un choix qui a été fait d'ailleurs par les postes plutôt du nord de l'Europe. La Poste allemande, la Poste aux Pays-Bas, ont vraiment tout misé sur la logistique, le transport de colis. c'est un marché ultra concurrentiel. Et puis, vous avez des très gros distributeurs, des très gros commerçants. On pense évidemment, par exemple, à Amazon, qui aujourd'hui ne font que expédier les colis, vendre ces colis. Mais aux États-Unis, on voit bien qu'ils commencent à les distribuer eux-mêmes. Et donc, c'est toute la question. Est-ce que bientôt, Amazon, par exemple, ne voudra pas, y compris en France, assurer soi-même la livraison des colis ? Alors, ça reste encore un petit peu de la science-fiction, mais on voit bien que, par exemple, la livraison par drone est expérimentée par un certain nombre de...
Ça, pour l'instant, c'est pas un raz-de-marée, hein.
C'est pas un raz-de-marée, mais en tout cas, ça pose question.
En tout cas, cela montre que des entreprises, donc effectivement, qui jadis faisaient uniquement de la vente par correspondance, aimeraient faire de la vente par correspondance et de la livraison. Pourquoi c'est si rentable que ça, Alain Barraud ? Parce qu'on a au contraire plutôt l'impression que c'est un service qui ne peut pas être rentable. Et de fait, le maillage du territoire qui est imposé par la Poste pour des raisons évidentes est quelque chose qui ne peut pas être rentable.
Alors non, c'est pas très rentable, mais comme ça a été dit, il y a aussi des missions de service public à remplir. Donc là, il faut que la Poste, et ça a toujours été le cas, elle, à la fois elle équilibre ses comptes et à la fois elle assume ses missions de service public. La difficulté qu'on a en France, c'est un État impécunieux qui charge la Poste des missions de service public, mais qui ne les finance pas à hauteur des coûts.
Quelles sont, par exemple, les missions qui sont structurellement déficitaires ?
Alors, déjà, la distribution du courrier, globalement, hein, quand vous distribuez du courrier en zone rurale, en zone montagneuse, etc., bien évidemment que ce n'est pas le prix du timbre qui va financer le coût de la distribution du facteur, mais on est le service public postal, c'est important pour les Français. Les zones rurales doivent être desservies comme pour les urbains. Reste la question du financement. Donc nous, on est assez pragmatique à la CFDT et on dit que, justement, on sait qu'on peut pas attendre grand-chose de l'État en termes de financement. Et donc, il faut un peu s'autofinancer. Et donc, il faut aller sur les marchés concurrentiels, etc. Et il faut développer de nouvelles activités. On a plein d'idées là-dessus. Hein,
sur lesquelles, par exemple ?
Eh ben, par exemple, on va parler à la fin de l'année du grand sommet, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bref...
COP21,
voilà. Et donc, on parle de transition énergétique. La Poste est peut s'inscrire dans ce schéma-là. Par exemple, en termes de, on parle de colis et de distribution de colis. Pour la petite histoire, on a toujours été en concurrence sur le colis. Jamais le colis n'a été un monopole postal. Il y a toujours eu des concurrents pour distribuer des colis. Il y avait le Cernam, etc. Il y a plein de boîtes qui ont disparu, qui ont changé de nom, etc. Mais ça a toujours été en concurrence. La logistique urbaine, c'est quoi ? Demain, ça va être de pouvoir aller distribuer tout le monde, particuliers, commerçants, entreprises, etc., dans les villes, sans passer par des camions diesel, etc., etc. Et la Poste a un atout là-dedans. Elle peut se positionner sur ce marché-là. Ça va venir. Dans quelques années, on interdira les véhicules dans les villes. Donc les véhicules électriques, par contre, pour y rentrer, la Poste peut se positionner là-dessus. Ça peut être un gisement d'emploi important. D'autres choses aussi, la Poste peut être tiers de confiance. Donc on a beaucoup parlé à une époque d'adresses numériques. La Poste a un petit peu raté le coche avec la Poste.net. Demain, on peut imaginer que, par exemple, le dossier médical, la Poste puisse se charger de cette nouvelle mission qui pourrait être une mission de service public que la Poste pourrait très bien remplir et ça aiderait pour l'emploi et puis aussi pour les Français, ça serait pas mal.
Nous avons Pierre qui nous appelle depuis l'Ardèche. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous vous écoutons Pierre, nous écoutons.
Eh bien, écoutez, je voulais simplement témoigner. J'étais postier de 1982 à 2009. J'ai pris ma retraite en 2009. J'ai pris ma retraite parce qu'il se profilait des choses absolument terribles pour tous les postiers. C'était la mise en place de facteurs d'avenir.
Facteur d'avenir, qu'est-ce que c'est ?
Facteur d'avenir, je vous explique rapidement. Officiellement, c'était une chose qui partait d'un très bon sentiment, c'était pour pallier aux absences inopinées. J'explique rapidement, on formait des équipes d'environ 9-10 facteurs. Au milieu, il y avait un facteur qu'on appelait facteur de qualité avec une tournée sécable. Le jour où il se trouvait un manquant dans le groupe des 10, ce facteur de qualité remplaçait au pied levé, puis il connaissait toutes les tournées là. Et tous les facteurs autour, c'est-à-dire les neuf qui restaient, se partageaient sa tournée. Officiellement, c'était pour de la qualité, pour qu'il n'y ait pas d'absents et ce genre de choses. Mais en réalité, c'était des gains d'emploi. Puisque les centres de tri qui sont gérés comme, comme des produits frais, maintenant envoient le courrier lorsque il y a des jours faibles maintenant et des jours forts, qui sont uniquement dictés par, par la rentabilité.
Et donc, effectivement, un certain nombre de problèmes pour les salariés, puisque Séverine Case, vous en parlez d'ailleurs dans la face cachée de La Poste, l'une des choses qui frappe lorsqu'on entend parler de La Poste en ce moment, ce sont tous les problèmes que rencontrent les salariés avec des suicides, des situations également moins dramatiques, mais l'impression que donne l'entreprise vue du dehors, c'est une souffrance qui règne à l'intérieur.
Oui, le témoignage de cet ancien postier de l'Ardèche le montre bien. En fait, La Poste, c'est un petit peu le chantier permanent. Alors, c'est vrai pour les tournées des facteurs. Donc, il y a ce qu'on appelle la sécabilité. L'idée, c'est effectivement que pour pallier un arrêt de travail, une absence, un groupe de facteurs se partage des petits bouts de la tournée de leurs collègues. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué dans la mise en œuvre. Le fait que les tournées changent aussi très régulièrement, le fait que dans les coulisses de La Poste, ce que le grand public ne voit pas, ce sont les centres de tri. À l'arrière des bureaux, vous avez des énormes plateformes industrielles dont la carte géographique n'avait quasiment pas changé depuis Napoléon. Vous imaginez, plus d'un siècle, grosso modo, la carte des centres de tri était calquée sur celle des départements français. Tout ça a été totalement remis à plat et modernisé avec beaucoup d'investissements consentis par par La Poste et l'État derrière il y a à peu près 10 ans. Ça a été plus de 4 milliards d'investissements pour refaire totalement le circuit industriel et logistique du voyage de la lettre. Voilà. Mais ça a induit pour les postiers énormément de modifications dans leur quotidien, puisqu'il a fallu parfois que certains déménagent pour se rapprocher d'un autre centre de tri, parce que l'ancien avait fermé, etc. Et donc ça induit effectivement un stress au travail, beaucoup de pression, une certaine souffrance. Et puis, chez beaucoup, ce qui ressort aussi, c'est parfois une perte un peu de sens. Parce que tous ces bouleversements, bah, on se demande un peu qui on est et que devient mon métier.
Pierre Bobby, là, clairement, on voit dans le témoignage de ce facteur qu'il y a une situation plus générale d'un service public qui assumait, donc une mission de service public, et à qui on va demander de faire des missions qui sont des missions visant à la rentabilité de l'entreprise. Là aussi, la rentabilité de l'entreprise, ça n'est évidemment pas un gros mot, mais du coup, ça change la représentation qu'on se fait de son travail.
Là, l'enjeu, c'est que les transformations que l'on vit et que l'on va vivre ne soit pas vécu par les postiers et par les utilisateurs de La Poste comme des contraintes, mais comme des opportunités. Le service public, c'est quoi? C'est de répondre aux besoins des populations et des collectivités. Et les besoins, ils évoluent en permanence. Et donc, si on transforme le management pour que ça soit vécu, les réformes en cours, comme une meilleure réponse aux besoins de manière plus efficace, avec plus de qualité, une opportunité pour les postiers, et bien évidemment, ça va changer. Mais ça implique qu'il y ait un véritable management stratégique au niveau de La Poste. Les postiers ne sont pas des obstacles, ce sont des chances, les 240 000 postiers, ce sont des chances.
On écoute Al Green, The Letter, et tout de suite après, on continue à évoquer La Poste et ses mutations.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. And wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more again. Lonely day to go, I'm going home. My baby done wrote me something on a piece of paper. Oh,
gotta get back and see my baby again. No, no, no. Lonely days ago, I'm going home. Baby done wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live, she couldn't live without me no more. Without me no more. Without me no more. Oh, oh, oh. Listen, mister, listen, mister.
Service public sur France Inter. Quel avenir pour La Poste? On en parle en compagnie de Séverine Cazes, journaliste au Parisien qui publie avec Valérie Acco La face cachée de La Poste. Alain Barraud, secrétaire national de la Fédération CFDT Communication Conseil Culture pour La Poste, et Pierre Bobby, enseignant et chercheur en sciences politiques, qui a notamment publié L'européanisation des services publics. Nous avons Bernard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Nous vous écoutons Bernard.
Bien, voilà, je serai à la retraite dans 2 mois. Voilà, je pensais partir de cette entreprise avec une certaine sérénité, mais bon.
Je précise que vous êtes postier, Bernard.
Je suis postier dans le secteur de la distribution. Uniquement, j'ai tout fait ma carrière, c'est-à-dire 40 ans dans le domaine de la distribution. Je pensais donc partir avec une certaine sérénité. Mais voilà, je crois que j'ai un goût plutôt amer de mon départ à la retraite, parce que je pensais que La Poste aurait été un peu plus fait preuve d'un peu plus de considération envers ses employés. Voilà, je suis plutôt déçu, disons, comme postier partant à la retraite. Voilà.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous déçoit? Qu'est-ce qui suscite le courroux que vous avez vis-à-vis de La Poste?
Peut-être pas, mais disons, il y a plusieurs choses. Je crois que notre statut de fonctionnaire, car je suis encore le fonctionnaire, est mal considéré. On privilégie La Poste, du moins privilégie, les apprentis, ce qu'ils appellent les apprentis, c'est-à-dire des jeunes postiers qui forment par une école, etc., en allant donc vers le travail de postier. Les fonctionnaires dont je fais partie sont plutôt mal considérés, avec des sous-entendus, etc. Donc, je suis pas le seul à le penser, beaucoup de mes collègues le pensent également. Donc voilà, il y a cette baisse du courrier dont vous avez parlé, effectivement, et on a l'impression, nous, postiers, nous, distributeurs, on a l'impression qu'on est devenu un peu le bouc émissaire de cette baisse du courrier, et on nous le reproche assez souvent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de courrier, nous allons rentrer de tournée, effectivement, beaucoup plus tôt que l'horaire prévu, et c'est à chaque fois des reproches, voilà.
D'accord.
On ne nous appelle pas par notre numéro, mais par le... On est à moins 36 minutes, on est à moins 40 minutes, etc. À chaque fois, c'est le début de la discussion, envers nous, s'effectue comme cela, voilà.
Combien gagne un postier en fin de carrière?
En fin de carrière, 1900 euros, ce qui est mon cas. Je suis donc, la personne en a parlé avant, je suis comme facteur d'équipe, c'est-à-dire que dans l'échelle pyramidale de La Poste, il y a facteur qualité, facteur d'équipe et tout ça. J'ai l'impression qu'on a divisé un petit peu pour mieux canaliser donc les postiers. Environ 1900 euros. Oui.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Bernard. Séverine Cazes, quand vous avez rédigé La face cachée de La Poste, vous avez fait des entretiens. Est-ce que le point de vue de Bernard est représentatif de celui des salariés de La Poste que vous avez pu rencontrer pour écrire votre ouvrage?
Oui, cette petite pointe d'amertume, effectivement, on l'a rencontrée très souvent. Ce que nous disait un prestataire extérieur de La Poste, donc quelqu'un qui côtoie les postiers mais n'en fait pas directement partie, c'est qu'il n'avait jamais vu une entreprise avec un tel différentiel de génération, de statut et de culture. C'est très intéressant, et La Poste en ça, c'est un peu comme...
C'est aussi une énorme entreprise.
Bien sûr, c'est une énorme entreprise. C'est 240 000 postiers, 80-90 000 facteurs à peu près. Et c'est simple, il y a 1% des salariés en France qui travaillent pour La Poste. Voilà. Et ce que nous disait ce designer, ce prestataire extérieur, c'est qu'il n'avait jamais croisé une entreprise avec un tel clash des cultures et des générations en interne. Puisque vous avez à peu près 50% des agents qui sont encore fonctionnaires, 50% qui sont sous statut de droit privé. Vous avez un peu des jeunes loups sortis d'école de commerce qui ont une vision très... un peu libéral de la Poste, et puis des anciens cadres, directeurs, postiers à tous les échelons de l'entreprise, des gens qui sont vraiment rentrés là avec les missions de service public chevillées au corps et qui ont une idée totalement différente de l'entreprise.
Et puis ces révolutions, ces bouleversements dans la culture de l'entreprise, dans les chocs culturels que cela induit, ne sont pas près d'être terminés, puisque on le voit, les bureaux de poste sont en train d'être transformés. On le voit aussi, il y a d'autres lieux qui sont en train de se transformer progressivement, sinon en bureaux de poste, du moins assumer un certain nombre des services que remplissaient jadis les bureaux de poste. C'est le cas, par exemple, à Orvilliers, dans le département des Yvelines. La brasserie de ce village de 720 habitants s'est transformée en bureau de poste en 2010, ouvert 7 jours sur 7. Ce relais commerçant est un projet de la mairie qui souhaitait redynamiser la commune. Après vous avoir servi le café, la maîtresse de maison, Brigitte, s'occupe de vos colis ou de l'achat de vos timbres. Un commerce multifonction, devenu en quelque sorte un lieu incontournable. C'est le reportage du jour de Lénora Krief.
Bonjour, je viens chercher mon recommandé.
Hop là, voilà. Alors, il me faudra, j'ai vérifié l'identité et une petite signature ici. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt. Bon après-midi, ma belle. Au revoir.
Depuis quand votre brasserie s'est transformée en relais poste?
Dès l'ouverture, il y a 5 ans.
L'ouverture de la brasserie?
De la brasserie, du commerce de proximité, qui est divisé entre bar, brasserie, épicerie, relais poste. Là, vous rentrez donc du côté bar. Et là, vous allez être devant le point poste.
Vous avez consacré un endroit spécifiquement pour les opérations postales.
Oui, nous avons donc un guichet postal avec la présentation des timbres, des enveloppes pré-timbrées et la présentation de tous les produits postes, les colis, les enveloppes lettres suivies.
À côté des savons pour l'épicerie.
À côté des savons pour l'épicerie et du petit rayon presse. On fonctionne comme une vraie poste. Vous pouvez acheter vos timbres, venir affranchir votre courrier, faire l'envoi de lettres recommandées, déposer vos colis, les affranchir ici, venir retirer vos instances. Je précise, vos instances, c'est les lettres recommandées. Quand vous n'êtes pas chez vous, elles sont le lendemain chez nous.
Et vous êtes rémunéré pour cette mission supplémentaire?
Oui, pour la poste, on est rémunéré. Nous avons un pourcentage sur toutes les ventes de timbres, d'enveloppes pré-timbrées, et nous avons une rémunération tous les mois fixe en plus.
Et sans indiscrétion, je peux vous demander combien?
307 euros.
307 euros par mois?
Par mois.
Pour vous, c'était intéressant cette proposition?
Oui, c'est intéressant parce que tout client qui vient à la poste rentre dans l'épicerie, est un client potentiel pour les autres produits. Voilà, il me fait vendre la presse, me fait vendre mes produits auvergnats.
Et vous vous êtes improvisée guichetière. Entre les commandes de plats et de boissons, vous réussissez à gérer vos opérations postales?
Oui, nous y arrivons. Voilà, Sandrine, moi, on y arrive. On vend un timbre, on vend une pression. Voilà, c'est l'ambiance des villages. Et c'est l'accumulation de toutes ces activités qui fait que ces commerces de proximité sont dynamiques.
Bonjour Hervé. Ça va Hervé? Hervé achète sa petite équipe.
Bon, est-ce qu'il te reste des enveloppes?
Enveloppe,
tu presses des enveloppes?
Oui, à fenêtre.
Oui, à fenêtre, je vais en prendre un peu.
Pré-timbré prioritaire par 100, 88 euros. Tu veux une fiche?
Oui, je veux une fiche, merci. C'est vrai que moi, par exemple, qui suis aussi à la Banque Postale, il faut que je descende plus loin à Septeuil, à Oudan. C'est un peu embêtant, on a une perte de temps. On l'aurait sur place. Alors, je ne sais pas s'il y aurait potentiellement la possibilité de le faire, je ne sais pas. Ça pourrait être considéré comme un manque, effectivement.
L'ancienne directrice de la Poste n'avait pas souhaité, parce qu'on peut, dans des petits relais comme nous, faire du dépannage, mais n'avait pas souhaité parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience. Beaucoup de petites postes se font braquer. Ils savent que si on dépanne un argent liquide, on stocke de l'argent. Vu une mauvaise expérience, elle m'a dit « Brigitte, ne fais pas banque, ne dépanne pas les gens ». On me l'a reproposé depuis, mais j'ai refusé.
Vous êtes un habitant d'Orvilliers?
Tout à fait.
Et vous, vos opérations postales, vous les effectuez ici?
Une partie, oui.
Parce qu'avant, il y avait un bureau de poste?
Il y avait un bureau de poste, mais pour être dans les horaires d'ouverture, c'était très complexe. Donc si vous travaillez dans des horaires normaux, ben, vous ne pouvez pas aller à la poste. C'est... Voilà.
Et un petit coup de tampon. Et voilà.
Le reportage de Lénora Krief avec votre réaction, Séverine Caz.
Alors là, on voit la version positive de la transformation des bureaux de poste que l'entreprise a réalisée depuis 10 ans. C'est-à-dire, vous avez des, ce qu'on appelait avant des usagers, ce qu'on appelle aujourd'hui des clients, qui disent les horaires d'ouverture sont plus larges. C'est du 7 jours sur 7 et non plus du 6 jours sur 7. Ils peuvent y faire quelques petites activités postales. Alors, visiblement, ils n'avaient pas besoin, par exemple, de retirer plus de 300 euros. Puisque ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans un relais commerçant ou dans une agence postale communale. Mais en fait, c'est effectivement le genre d'expérimentation que la Poste va faire dans les années futures en milieu urbain, puisqu'elle connaît bien le système maintenant pour les bureaux ruraux, avec donc des avantages et des inconvénients. Demain, et en fait, la Poste, enfin même aujourd'hui, la Poste est en train de réfléchir à la manière dont elle va transformer ses bureaux dans les centres-villes. Et dans les villes de plus de 5000 habitants.
Mais d'ailleurs, lorsqu'on rentre dans un bureau de poste, c'est ce que j'ai fait par exemple hier, on est un peu étonné, il y a des albums d'Astérix en ce moment, on vend des petites babioles, enfin bref, il y a toute une série d'objets. Ça n'est pas que ces objets soient gênants, hein, un album d'Astérix en soi, c'est pas une nuisance, mais on se dit que c'est pas comme ça qu'on va réussir à remettre la Poste en état de rentabilité. J'imagine que ce n'est pas ainsi qu'on peut espérer un retour à meilleure fortune, Alain Barraud.
Alors, je pense que déjà, le bureau de poste où vous êtes allé, c'est plus tout à fait ça, en vrai. C'est-à-dire que ça a été ça il y a quelques temps. Il y a une dizaine d'années, la Poste s'est mise à vendre tout un tas de babioles, comme vous dites, etc., en se disant, voilà, on va attirer les gens dans les bureaux de poste. Aujourd'hui, c'est plutôt terminé, ça.
C'est
plutôt,
pas.
Voilà, ça marchait pas.
Pourtant, les albums d'Astérix étaient en vente hier soir.
Je vous crois. Je vous crois. Non, en revanche, on a, par exemple, on s'est lancé dans la téléphonie. Et donc là, la téléphonie, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui fonctionne bien. Là aussi, les guichetiers ont dû s'adapter. Et là, ça répond quand même à une demande. Et en particulier, ça permet aux bureaux de poste de faire re-rentrer les jeunes dans les bureaux de poste. Et donc de créer de l'activité, une activité qui était, comme le courrier, hein, on parle souvent du courrier, mais qui était aussi en forte baisse en termes de fréquentation. Les habitudes ont changé, les gens se servent d'Internet, y compris pour gérer leurs comptes, etc., etc. Et donc, il y avait de moins en moins de monde dans les bureaux de poste. Et donc, c'est un enjeu, là encore, pour l'avenir de la Poste et pour l'emploi. Et les guichetiers font preuve de grand professionnalisme en s'adaptant à ce qu'on leur demande. Par exemple, la téléphonie, qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas simple avant.
Pierre Bobby.
Oui, mais ça me fait un peu réagir, ce que je viens d'entendre, parce que, encore une fois, l'enjeu, c'est de répondre aux besoins différenciés. Dans le petit village dont on parlait tout à l'heure, c'est pas pareil que dans la banlieue parisienne, et ainsi de suite. Mais l'enjeu, c'est de co-construire avec les utilisateurs, avec les élus, avec les personnels, en les faisant participer, les meilleures réponses adaptées à chaque situation concrète. Pourquoi la Poste vend-elle des abonnements téléphoniques? Qu'est-ce qu'elle apporte? Faire venir des gens dans les bureaux, ok, mais c'est pas l'enjeu. Qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs qu'en plus, alors qu'il y a déjà 4 opérateurs majeurs et que la Poste n'est pas opérateur? C'est SFR qui fait le boulot. Bon, qu'est-ce que ça apporte en la matière? Non. Par contre, utiliser le réseau qui n'a pas d'équivalent dans toute la France postale pour répondre aux besoins des différenciés des populations, là, il y a un véritable danger et un véritable défi.
Michel est au standard. Bonjour Michel. Bonjour Michel.
Ah oui, d'accord, on n'avait pas prévenu que je passais l'antenne. Je voulais intervenir pour dire que la Poste était... Bon, il y avait pas mal de qualités de défauts, et pour être bref, mais je voulais revenir sur le point du cœur d'activité de la Poste, qui est quand même la distribution des courriers, et de voir qu'une bonne part s'est dégradée et a contribué à ce que ça se dégrade d'autant plus. Je pense par exemple à l'obscurité des tarifs, où il y a des tarifs avec les trois timbres, les affranchissements, bon, il y en a
hein, qui peut être deux clés qui peuvent être claires quand c'est rapide ou lent, mm-hmm. mais l'intermédiaire quand il s'agit de timbre vert, on se demande à quoi ça correspond. Il y a le problème des délais, parce que le si vous affranchissez au tarif lent, vous savez pas combien de jours va mettre votre courrier, mm-hmm. et ça t'est arrivé au mois de décembre par exemple que ça arrive jusqu'à 10 ou 12 jours. Donc vous imaginez quand il s'agit de factures d'EDF ou de téléphone qui en plus des délais de paiement, les conséquences que ça peut avoir. Et l'autre point, par exemple, aussi, qui est très dégradé, c'est le relevé des mmh. boîtes postales. Avant, quand vous faisiez dans la journée, que ce soit au travail ou personnel, votre courrier dans la journée, vous deviez le poster le soir, mettons, vers 19h, et le courrier du jour partait donc le jour même. Maintenant, les relevés se font dans l'après-midi, vers 16h. Donc, si vous faites du courrier en fin de journée, il va mettre, non pas 24h, comme dit la Poste, mais il va mettre obligatoirement une journée de plus, parce qu'il va être relevé que le lendemain.
Effectivement, votre appel, Michel, corrobore d'autres témoignages, d'autres appels sur la dégradation du niveau de service. Alors, est-ce une réalité? Est-ce un effet de notre mémoire qui nous joue des mauvais tours, Alain Barraud?
Moi, je suis pas là pour défendre la Poste, hein, mais voilà, c'est comme les trains qui arrivent pas à l'heure. Sur la masse de courriers, globalement, la qualité de service est bonne. De plus, depuis pas mal d'années maintenant, la Poste fait mesurer sa qualité de service par un opérateur externe. Hein. Donc, on n'a pas une mesure interne concernant la qualité de service. En revanche, je comprends l'auditeur qui dit ne plus trop bien comprendre ce qui se passe avec les timbres verts, les timbres rouges, les délais, etc. Là-dessus, je conçois que ce soit assez compliqué à suivre pour les gens.
La qualité de service est peut-être bonne, mais ce que l'on observe, en tout cas Alain Barraud, c'est qu'il y a, par exemple, de moins en moins de boîtes aux lettres. C'est qu'il y a... Vous faites la moue, Séverine Caz.
Non, en réalité, la Poste, vous savez, il y a une levée de bouclier quand vous supprimez des boîtes aux lettres. Alors oui, effectivement, il y en a quelques centaines qui sont supprimées tous les ans. Mais en général, la Poste essaye de le faire en bonne intelligence avec les habitants, avec les élus locaux. Et puis, elle peut pas faire n'importe quoi parce que vous avez ce qui s'appelle en France l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des activités postales, qui demande tout un tas d'indicateurs. Donc effectivement, la régularité dans la distribution du courrier est mesurée par l'IFOP, qui impose un certain nombre de règles. Par exemple, vous avez une anecdote très intéressante qu'on raconte dans notre ouvrage. C'est une retraitée du Nord, Madame Lucienne. Depuis 50 ans, son facteur déposait son courrier dans la boîte aux lettres qui était à 10 mètres de sa maison au bout de la petite allée. Et puis un jour, elle reçoit un courrier du directeur local de la Poste, lui demandant de déplacer sa boîte aux lettres pour l'amener sur le bord de la rue. Et puis, cette retraitée considère que c'est une affaire de principe, que la Poste est un service public, et donc le facteur doit continuer à parcourir les 5 ou 10 mètres qui séparent la rue de sa boîte aux lettres. Et elle est allée en justice pour ça. Alors, elle a même pris un très bon avocat de Lille. La cause a été plaidée, et effectivement, la justice a dit que la Poste n'avait pas raison. Elle doit maintenir ce service, c'est-à-dire apporter au particulier son courrier dans sa boîte aux lettres, y compris s'il n'est pas juste en lisière de rue. Donc voilà, la Poste essaie de s'en sortir un peu avec des stratégies de contournement. Donc par exemple, pour ce qui est de la régularité de la distribution du courrier, distribuer une lettre du jour au lendemain, ce qu'on appelle à J+1, c'est beaucoup plus difficile et cela coûte beaucoup plus cher que de le distribuer à J+2. Ça, c'est la lettre verte. Alors, la Poste, qui est assez maligne, vous présente ce timbre vert comme un timbre écologique, parce que du coup, votre lettre ne prendra pas l'avion, va être acheminée...
À pied.
Voilà, plus à cheval comme dans le temps, mais en train ou en camion, avec en plus des camions électriques, parce que la Poste, c'est la plus grande flotte de véhicules électriques en France, quand même. Et même au monde, absolument. Donc voilà, la lettre verte, les clients se sont bien adaptés, puisque en réalité, il y a eu une grosse pression pour vendre plus de timbres verts que de timbres rouges. Et pour la Poste, c'est tout bénéfice, parce que c'est beaucoup moins difficile de distribuer à J+2 que à J+1, ce qui lui permet d'améliorer effectivement ses indicateurs de fiabilité.
Christian n'est pas content sur Twitter. Il nous dit que France Inter alimente la résistance au changement et cultive le passéisme en sélectionnant des appels caricaturaux. Alors, on ne sélectionne pas les appels sur ce critère-là, Christian. Ça n'est pas vrai. Néanmoins, y a-t-il du passéisme dans le fait de dire que c'était mieux avant et qu'il ne faudrait absolument pas changer les choses? Pierre Bobby, lorsqu'on voit, par exemple, les autres postes, les postes des pays étrangers, a-t-on affaire à des postes qui acceptent mieux le changement que la nôtre?
Mais il y a le phénomène général de baisse du courrier existe partout, en tout cas en Europe et même à l'extérieur. Il y a à partir de là trois stratégies qui existent parmi les postes européennes. Il n'y a pas l'Europe qui vient dicter les réponses. Chaque État invente ses réponses. La première stratégie, c'est celle, ceux qui disent « Oh ben, continuons comme avant, on arrivera bien à s'en sortir. » C'est la stratégie du déclin, de la spirale du déclin progressif. Elle existe aujourd'hui dans un certain nombre de pays. La seconde stratégie, c'est de dire « Bah, on va casser en morceaux la poste, garder ce qui est le plus rentable, et puis le reste, bah, le délaisser. Tant pis pour le service universel, tant pis pour le service public en la matière. » Ça, ça existe dans beaucoup de postes. Privatisation, coupure en morceaux, rentabilisation des segments les plus utiles et les plus rentables. Puis la troisième stratégie possible, c'est celle qui consiste à dire « Mais le réseau physique et humain que représente la Poste, les 240 000 postiers, est irremplaçable. Il faut surtout pas le couper et le mettre à mal. Il faut au contraire lui permettre, parce qu'il n'a pas d'équivalent, pas de précédent, lui permettre de répondre mieux aux besoins. C'est pas simplement dire pleurnichons sur le passé. Non, il y a aujourd'hui des opportunités pour avoir un service de meilleure qualité au moindre coût, et c'est bien ça le service public.
C'est bien ça, en tout cas, votre conception du service public, est-ce celle d'Alain Barreau?
Alors, bien évidemment, tout le monde l'a dit, les défis qui sont devant nous obligent de toute façon à ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. Et donc, la Poste, par exemple, et donc les syndicats, mais la CFDT en particulier, a défendu, au moment du changement de statut en 2010, que la Poste reste l'opérateur de service public, qu'elle reste sur des activités diverses que n'ont pas fait d'autres postes européennes qui ont choisi soit le courrier, soit les services financiers, etc. Nous, on a quand même une palette assez large. Vous avez la banque postale. Donc là aussi, il y a eu polémique. Est-ce qu'on devait créer une banque ou pas? Sachant que quand même, les services financiers existaient auparavant, mais ne pouvaient pas offrir toute la gamme aux clients de la Poste. Et donc, elle avait toute sa légitimité à pouvoir le faire. Donc, elle a tout un spectre quand même qui lui permet de se développer. Quand le courrier va moins bien, le courrier, c'est le cas, va moins bien, on peut penser que la banque peut prendre un peu le relais, etc. Et aller maintenant vers de nouvelles activités qui vont rendre d'ailleurs le service au public. Parce qu'on parle de service public, et aussi le service au public. Et le public a besoin de certaines choses et de nouvelles choses. Voilà, faut pas rester comme on est, sans bouger, sinon on est très mal.
Séverine nous appelle de Nancy. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, oui, je voudrais donc dire que la Poste est à faire à faire face aux changements évoqués plus tôt, je suis tout à fait d'accord. Mais en tant que particulier, je trouve qu'il y a quand même des efforts à faire concernant son but premier, c'est-à-dire distribuer le courrier. Moi, il m'arrive quand même assez fréquemment d'envoyer du courrier et ce courrier n'arrive pas. Et c'est assez fâcheux et je ne suis pas la seule à constater ça.
Votre courrier n'arrive pas.
On est contraint d'utiliser la concurrence, chose que malheureusement, j'ai pas forcément envie de le faire, mais voilà. Il y a quand même déjà d'une part des tarifs qui sont plus intéressants et en plus, bon, le courrier arrive. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Lorsque je signale ce qui m'arrive, on me répond qu'il faut les envoyer en recommandé. En fait, je trouve que pour envoyer quelque chose qui n'a pas une grande valeur, mais qui a une valeur, enfin, parce que je réalise beaucoup de choses et que j'offre à mes amis, quand je leur envoie quelque chose que j'ai fait, ça n'a pas une grande valeur en termes marchandes, mais en termes de temps, en termes de sentiments, etc., etc. Et je trouve que payer un recommandé excessivement cher pour envoyer une petite chose à une amie de temps en temps, c'est un peu abusif.
Si on doit envoyer ces carte postale en lettre recommandée, c'est effectivement un peu problématique. Cela dit, nous avons de nombreux auditeurs qui ne sont pas contents du service de la Poste. Anaïk qui nous dit « Je suis une très petite entreprise, je suis fort mécontente de la Poste dont le service s'est dégradé jusqu'à ne plus exister. 5 jours sans courrier, 10 facteurs différents en 1 an, du courrier qui nous arrive après l'heure de lever, 5 plaintes déposées, mais le service demeure aléatoire. » C'est quand même un sentiment général, Alain Barreau, les gens ont l'air de considérer, peut-être à tort, que c'était mieux avant.
Non, mais ces situations-là sont complètement anormales. Donc, si la personne, à chaque fois qu'elle envoie du courrier, le courrier n'arrive pas,
il y a anormal. Mais est-ce lié aux réorganisations?
Les réorganisations, plusieurs auditeurs en ont parlé, des postiers, c'est vrai qu'elles se sont accélérées ces dernières années, justement pour faire face à la baisse de courrier. Et donc, c'est une problématique, nous, pour les syndicats, c'est comment, justement, on accompagne ça. Parce que là, on en est à accompagner les choses pour que ça se passe le mieux possible. On a parlé de la crise, à un moment donné, à la Poste, avec les suicides, etc. Donc, moi, personnellement, par exemple, j'ai rencontré à l'époque Jean-Paul Bailly, je lui ai carrément dit qu'il fallait qu'ils sortent du déni, qu'il y avait vraiment des problèmes graves qui touchaient les postiers, etc. Et on a mis des choses en place pour que les réorganisations se passent mieux, aient lieu moins souvent, etc. Mais toujours est-il que ce n'est pas parfait, bien évidemment. Après, pour ce qui est de la qualité de service, voilà, il faut voir aussi avec la Poste. Là, je ne suis pas en capacité de pouvoir répondre à ça.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Séverine Case, celui que vous avez écrit avec Valérie Accot, La face cachée de la Poste, enquête sur un service public en péril aux éditions Flammarion. Bonjour Nagui.
Bonjour,
la bande
Guillaume.
Originale n'utilise pas nécessairement la Poste, vous allez nous dire en direct.
Si.
Parce que on
est un peu tous timbrés.
Pas en recommandé,
on est tous, on est tous timbrés et on essaye de recommander un maximum d'artistes comme Dominique A qui sera là tout à l'heure pour chanter en live et notre invitée est la talentueuse Juliette Binoche pour parler du festival de Cabourg.
Que l'on va entendre tout de suite après le flash. À tout de suite Nagui.